France Inter.
Et j'ai eu la chance, si vous voulez, de tomber, j'ai presque envie de vous dire, dès l'école et grâce à l'école, dans le chaudron merveilleux de la langue et d'en avoir le goût et d'y être à l'aise, en affinité, en confiance pour reprendre un mot, vous voyez. Ça, c'est une grâce incroyable, donc j'essaie de la partager, cette grâce, à l'écrit et parfois à l'oral aussi.
On me pose souvent cette question, d'où ça vient ce récit narratif des podcasts qu'on produit? Ben, je crois que c'est lié à l'enfance. Je crois que c'est lié à l'enfance, les histoires qu'on raconte aux enfants. Vous voyez, le soir, avant de se coucher, ou y compris dans les familles, il y a ce côté un peu à la fois romanesque, mais aussi récit qui vous emporte dans des émotions. Très sincèrement, je pense que cette dimension narrative, elle remonte chez moi il y a très longtemps.
Le Cantal est le terreau dans lequel notre invité enracine sa littérature depuis Le Soir du Chien, en 2001. Il y a eu Les Pays, Nos Vies, Histoire du Fils, Prix Renaudot, Les Saisons et aujourd'hui Hors Champ, chez Bûcher Chastel. Bonjour Marie-Hélène Lafon.
Bonjour Vincent Josse.
Est-ce que vous écrivez toujours à la main, à l'encre?
Quand j'écrivais à la main, j'écrivais au crayon ou au stylo.
Aïe.
Le premier jet manuscrit. Et je suis au regret de vous dire que j'ai écrit désormais 3 livres directement sur l'ordinateur, sans manuscrit. Ça me pose un problème. Je pensais, l'été dernier, renouer avec l'écriture manuscrite et je me suis rendu compte que, pour l'instant, ça n'est plus possible. Ça me trouble beaucoup.
On va en parler, Marie-Hélène Lafon. Vous êtes née à Aurillac dans une famille de paysans. Vous êtes venue à Paris étudier latin, grec et français que vous avez enseigné tout en ayant toujours une maison dans votre région natale. Votre invité est bien connu des auditeurs de France Inter. Bonjour Philippe Collin.
Bonjour Vincent, bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Philippe Collin.
Podcast J'en ai compté 14 face à l'histoire sont disponibles sur l'application Radio France depuis Le Fantôme de Philippe Pétain jusqu'à Singmaringen, Le Crépuscule des Bourreaux. Vous écrivez aussi des BD, des essais et puis un roman qui a bien marché, Le Barman du Ritz chez Albin Michel. Je précise que Marie-Hélène Lafon sort Hors Champ chez Bûcher Chastel. Bienvenue à tous les deux dans le Grand Atelier.
France Inter, le Grand Atelier, Vincent Josse.
Eh bien Marie-Hélène Lafon, c'est terminé, je ne peux plus vous appeler Madame la Professeure.
C'est terminé.
Depuis juin,
c'est terminé, c'est derrière moi, en moi pour toujours. Mais, fin juin 2025, j'ai quitté l'école dans laquelle j'étais entrée en septembre 1968, à 6 ans. Donc entre l'âge de 6 ans et de 63 ans, j'ai été embrassée par l'école, qui fut une bonne mère, embrassée, prise au bras.
Oui, vous avez adoré l'enseignement.
Oui, j'ai aimé l'école et l'école m'a aimée. Et j'ai appris à aimer le métier de professeur, que je n'ai pas embrassé par vocation, mais par raison.
Vous devenez écrivaine à 34 ans, est-ce de la déraison?
C'est certainement de la déraison, mais c'est du désir et de la nécessité. J'ai presque envie de dire que je n'avais pas le choix. C'était ça ou m'enfoncer dans le sentiment poisseux et fangeux. J'ai retenu fangeux dans le podcast sur Simone de Beauvoir.
Podcast de Philippe Collin,
absolument,
oui.
Absolument, votre podcast sur Simone de Beauvoir. Fangeux, voilà, de passer à côté de ma vie. Donc, j'ai commencé à écrire.
C'est une vocation, la radio, pour vous, Philippe?
Non, c'est pas une vocation. C'est sans doute un désir, une nécessité, pour reprendre les mots de Marie-Hélène, mais c'était un hasard. C'est un hasard d'une rencontre, celle de Gérard Lefort, de Libération, qui m'a fait entrer à France Inter il y a maintenant 26 ans.
Oui, il a eu une émission.
Ans, absolument. C'est un hasard, mais comme Marie-Hélène, j'ai eu la trouille de passer à côté de ma vie. Et je me suis dit, tiens donc, ici, une grande maison, une maison d'ailleurs, peut-être c'est aussi lié à l'enfance, je peux y entrer, on m'y accueille bien, et je vais peut-être tracer un chemin. Voilà, mais c'était pas une vocation du tout. Mes parents n'écoutaient pas du tout la radio, par exemple. Vous voyez, donc c'est une chose qui était très inconnue pour moi. Ça me faisait très peur, ce micro rouge. Les grands personnages de l'antenne m'impressionnaient beaucoup. J'étais un peu écrasé. Mmh.
Vous étiez à l'époque attaché de production.
Exactement.
C'est quelqu'un qui aide le producteur à réaliser son émission.
Voilà. Exactement. Et tout doucement, la radio a été bienveillante avec moi. J'ai fait des rencontres bienveillantes et on m'a tout doucement proposé un horizon que j'ai embrassé, comme Marie-Hélène pour l'éducation nationale.
Qui était peut-être. De produire des émissions.
Exactement, oui, absolument.
De causer dans le poste et puis d'inventer des concepts aussi d'émissions.
Absolument, c'était une chose qui me tenait à cœur, mais qui est toujours liée au récit. On entendait au début un petit extrait d'une interview que j'avais donnée. En effet, c'était une chose qui m'habitait depuis longtemps, de raconter des histoires. On m'en a tellement raconté enfant que je me suis dit peut-être que je pourrais faire ça à la radio.
Oui, vous dites que la narration est en vous, en tout cas ce désir de conter, de narrer depuis l'enfance.
Oui, c'est des histoires qu'on raconte le soir avant de s'endormir, vous voyez, mais pas que, c'est des histoires de famille, la Seconde Guerre mondiale, on vous raconte les histoires des grands-parents qui ont été prisonniers de guerre en Allemagne, etc. Donc ça a habité, voire hanté mon enfance.
On est hanté dans l'enfance. Quand on est prof, on se rend compte de ça avec ses élèves, de ce qui déjà les hante. Ou c'est très abstrait, ou
non.
Trop intime.
L'intime des élèves, évidemment qu'il doit rester à sa place. Mais quand on est professeur de français, ce qui fut mon cas, on voit forcément dans l'écriture des élèves, dans ce qu'ils écrivent, plus que dans ce qu'ils disent souvent. On sent pointer des choses.
Votre plume, elle est vraiment trempée dans la terre, dans vos racines, depuis, de manière obsessionnelle, assumée.
Obsessionnelle, on peut le dire.
Oui, je crois. Depuis que vous écrivez, vous pourriez aussi écrire sur vos élèves, sur un élève.
Les corps de mes élèves. Certaines façons d'être, certains de leurs gestes, de leurs élans, sont dans mes livres, pièces et morceaux, épars, repris, décousus, recousus. Évidemment. Mais jamais de manière explicite. Jamais. Celui de mes livres, dans lequel mon expérience de professeur, porte de bagnolet, établissement de zone d'éducation prioritaire pendant 10 ans. Donc celui de mes livres dans lequel cette expérience est la plus présente, s'intitule « Mots ». Et c'est un roman dont je dis volontiers qu'il est délocalisé, parce qu'il commence dans la banlieue d'Avignon et se termine à Marseille. Et je dis volontiers que Maud, c'est Mohamed, il n'est pas né fils de paysan dans le Cantal. Mais il y a tout de même dans ce livre une classe verte sur le plateau d'Aubrac, premièrement, et deuxièmement, c'est celui dans lequel l'expérience vraiment du rapport aux élèves est la plus présente.
On va continuer de parler ensemble, Philippe Collin, avec Marie-Hélène Lafont dans ce grand atelier, juste après l'américaine Hayley Williams qui chante Kill Me.
Grand Atelier sur France Inter.
Marie-Hélène Lafont, on a entendu beaucoup parler en décembre du malaise des agriculteurs, des éleveurs sommés pour ceux dont les bêtes étaient atteintes de dermatoses nodulaires contagieuses d'abattre leurs troupeaux. On a vu des réactions indignées, blessées, inquiètes aussi. Vous qui avez grandi dans une ferme, quelle a été votre réaction ?
une émotion tellement douloureuse, et elle me renvoie chaque fois à une émotion que je maîtrise tellement difficilement, en fait, que j'évite de prendre la parole sur ces questions, parce que je ne ferai qu'ajouter de la confusion à la confusion, du malentendu au malentendu, du bavardage au bavardage. Je n'ai pas la compétence pour démêler ces questions qui sont tellement inextricables et dans lesquelles les enjeux politiques, économiques, historiques, sociologiques sont tellement mêlés et emmêlés que je voudrais éviter toute prise de parole qui simplifierait les choses, voyez. Et c'est d'abord une émotion, un vertige et de la douleur, évidemment, pour un paysan de voir son troupeau abattu. Je trouve que le film Petit Paysan, qui a déjà... C'est Hubert Chéruel, je crois, hein, et il a déjà quelques années, ce film. Oui. Mais je trouve que c'est un film qui dit des choses extrêmement justes sur ce moment-là, quand ce moment-là de violence immense intervient dans la vie d'un éleveur.
J'aimerais bien, Marie-Hélène Lafont et Philippe Collin, qu'on écoute une ambiance qui vous est certainement très familière, en tout cas Marie-Hélène Lafont. J'ai presque envie de vous dire, fermez les yeux et dites-nous ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous éprouvez.
Il manque le braiement de l'âne.
Il avait un nom ?
Oui, Jaco, toujours. Et dans la ferme de mes parents, sa fonction unique était de transporter le lait de l'étable à la laiterie où on allait le transformer, ce lait, en son nectar. Et l'âne et son braiement, voilà, c'est la nuance supplémentaire
que vous apportez.
Absolument, et que j'entends forcément, vous voyez, parce que ça écrase tout le reste, hein. Ça écrase même le feulement du tracteur.
On a raté l'âne, Jaco. En tout cas, lire Hors-Champ de Marie-Hélène Lafont, et particulièrement ce livre d'ailleurs, c'est ressentir ses sons, c'est sentir des odeurs en tournant les pages. Claire, qui est la sœur de Gilles, Claire reconnaît le son du balai que passe Gilles quand il nettoie la ferme. Je repense aussi à l'odeur de cire que Claire, une fois adulte, passe chez ses parents et chez son frère. Sans doute un peu pour se calmer aussi par moments par rapport à ce climat insupportable que fait peser le père violent. Je repense à l'odeur de cette bête qui est morte dans la ferme. Claire, qui visite la ferme de ses parents, repart en ayant l'odeur plusieurs heures sur elle. Écrire pour vous, ça passe par les sens, l'odorat, l'ouïe, etc.
Ça passe par les sens, alors l'odorat, l'ouïe, les cinq répertoriés. Et non seulement ça passe par les sens, l'écriture, mais il s'agirait d'incarner le monde par l'écriture. Incarner, c'est donner chair. Le verbe, c'est fait chair.
Vous parliez du corps tout à l'heure,
absolument,
qui est tellement important dans votre écriture.
Voilà, et ça passe par les sens.
Mais je me suis dit d'ailleurs en lisant Hors-Champ que le métier de fermier est un métier qui passe par le corps.
Le
et que votre
paysan,
écriture...
Oui.
Eh bien, l'écriture d'une femme qui a connu la ferme, puisqu'elle passe aussi par le corps, votre écriture.
Et le hasard m'a planté là, et que, en effet, ça vous empoigne. Par exemple, vous avez parlé du registre des odeurs tout à l'heure. J'ai mis longtemps à comprendre que si je me souvenais tant par odeur, c'est notamment, probablement, parce que j'ai eu cette première expérience, le premier rapport au monde, avant même d'accéder au langage, etc., il a été traversé de ce type de sensations olfactives très très fortes qu'on a quand on vit très proche, par exemple, de l'odeur d'un jardin après la pluie, sans parler évidemment de toutes les odeurs organiques liées au fait qu'il y ait des vaches dans une ferme. Ça, c'est très très important, parce qu'on peut être enfant de paysan et ne pas avoir ce rapport aux bêtes. En effet, c'est un monde foisonnant du point de vue des sens qui vous empoigne, qui vous submerge, qui vous traverse. Il faudrait que tout ça sue sur la page, suinte, remonte des fonds de la page que j'écris.
Et vous faites des signes, vous accompagnez votre discours de gestes des mains. Je me tourne vers Philippe Collin qui nous a fait l'amitié de lire le roman de Marie-Hélène Lafont.
Oui.
Claire et Gilles, deux enfants. Gilles, ça marche pas très bien pour lui à l'école alors que Claire est très douée. Claire va réussir à s'extirper de la ferme tout en achetant une maison pas loin pour revenir dans cette terre qu'elle aime tant. Une terre rude, austère, avec un père violent et un petit garçon qui va être obligé, sorte de fatalité, de prendre le métier de son père et de lui succéder à la ferme. Comment vous avez réagi à la lecture ?
Je vais vous raconter une histoire, Vincent.
En fait, était une fois.
Oui. J'ai vu apparaître Marie-Hélène dans les spectres médiatiques et en librairie il y a 25 ans. J'ai refusé de me confronter à sa littérature parce qu'il y a une chose que je ne dis jamais,
c'est que je viens de ce monde-là. Je viens du monde agricole en Bretagne. J'entends l'univers sonore que vous proposiez, c'est toute mon enfance.
Je pensais que vous étiez fils de sous-marinier.
Oui, mais mes grands-parents étaient bretons, agriculteurs, tous mes cousins, tous mes oncles, tous mes tantes. Donc j'ai grandi dans ce monde. Et donc j'ai refusé de lire cette littérature pour commencer parce que ça me faisait un peu peur. Et puis il y a quelques semaines, vous me dites, Vincent, Marie-Hélène veut t'inviter à cette émission. Donc je me dis, je vais me confronter à ce hors-champ et je vais le lire. Ça a été extrêmement secouant pour moi et très bouleversant. Parce que c'est un peu mon histoire en vérité. J'ai failli avoir le destin de Gilles et j'ai eu le destin de Claire. Et ça m'a bouleversé. J'ai beaucoup pleuré parce qu'il y a un mystère dans ma vie. Je ne sais pas comment je suis passé de Gilles à Claire. Peut-être grâce à un professeur de français, en première, au lycée Jean Moulin à Châtelain, Moselle Le Troquer, je donne son nom, qui a peut-être compris en moi des choses et elle est venue m'accompagner vers des choses qui étaient intimes en moi. C'est vrai que ce monde paysan, ce monde agricole, j'en parle jamais, mais ce monde catholique aussi, hein, il y a la confesse dans ce livre. Je me suis confessé comme les enfants Gilles et Claire sont allés se confesser. Ça a été un effet boomerang, ça, je me suis pris ça en pleine figure quand même, pour tout vous dire, et j'ai trouvé ça extraordinaire pour moi, à la fois comme lecteur de littérature de Marie-Hélène Lafont, mais aussi comme expérience intime. Ça m'a bouleversé, pour tout vous dire.
Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas devenu Gilles ?
Le mystère de la vie, peut-être que c'est une chose qui fait qu'on a envie de vivre et on ne va pas passer à côté de sa vie, comme on disait au début de cet entretien. Et il y a une force en moi qui s'est emparée de moi pour casser le destin. Et ce qui m'a bouleversé dans ce roman, c'est que finalement, Gilles et Claire sont très proches enfants, mais leurs destins sont assez figés dès le départ. On sait très bien vers où va aller Claire, les études, et Gilles ira vers le père. Bon, moi je répète, j'étais parti pour devenir Gilles, et je suis devenu Claire. Et je ne sais pas encore aujourd'hui ce qui a permis cette transformation,
cette rencontres. Mutation.
Les rencontres, bien sûr, mais il y a aussi des forces de la vie qui vous dépassent parfois, Vincent. Vous savez, parfois je ne m'explique pas, je me dis mais comment j'ai réussi à faire ça ? Parce que passer d'une vie à l'autre, c'est très difficile.
J'ignorais complètement
voilà.
Ça.
Voilà, et en fait ça m'a vraiment bouleversé et je sais pourquoi j'ai d'abord refusé Marie-Hélène Lafont, parce que j'avais la trouille, vous voyez. Mais aujourd'hui je vous remercie parce que c'est un grand livre pour moi.
Vraiment. Ça veut dire que ce qu'écrit Marie-Hélène Lafont est juste sur l'enfermement d'un fils,
ouais,
et l'obligation de reprendre le travail du père.
Exactement, et aussi ce monde agricole qui est un monde, et paysan, c'est pas la même chose, agricole et paysan, c'est un monde difficile, c'est un monde qui est dur, et que j'ai sans doute poussé au loin dans ma vie parce que je le redoutais.
Marie-Hélène Lafont qui a eu envie d'écrire sur une forme de huis clos, ça s'appelle Hors-champ, c'est très intéressant comme titre, hein. On n'est pas plein cadre. On découvre des choses qu'on ne voit pas dans le cadre, qui sont hors champ, grâce à vous. On vit certainement ce que vous avez vécu. Je ne sais pas si Claire égale Marie-Hélène, et si Gilles est votre frère, mais on se dit que vous connaissez parfaitement ce huis clos, cet enfermement, et cette impossibilité pour ce garçon d'être heureux.
Alors ce garçon, il est très déterminé, en fait, par le fait qu'il est un garçon, déjà. En fait.
Oui, tu seras celui qui reprendra
bien
la ferme.
Bien sûr, je crois que les vies, les destins individuels sont très déterminés sociologiquement, historiquement, économiquement. Ce garçon, né 20 ans plus tôt ou né 20 ans plus tard, il eût peut-être pu avoir une autre vie. Mais là, on est à un moment où la question de la suite est une question cruciale et douloureuse. On est dans le dernier quart du XXe siècle, hein, quand il naît. Et les filles sont d'emblée, assez naturellement, écartées de la question de la succession. Et les filles doivent aller inventer leur vie ailleurs. C'est sociologique. Ça passe souvent par l'école, quand elles ont le bonheur d'aimer l'école et d'être aimées d'elles.
C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, j'ai été prof par raison.
Oui, 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 totalement, bien entendu. Il fallait devenir fonctionnaire aussi. Hein, ça, c'est la chanson de Jean Ferrat. Hein. Bien sûr, hein, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne.
Donc bon. Il est bien sûr nourri de vous, de votre biographie.
Alors, il est nourri, comme tous mes livres.
Ce livre. Hein,
il est nourri, je suis dans tous mes livres, en pièces détachées. Alors, il se trouve que ça dépasse complètement ce qui serait mon histoire individuelle, si vous voulez. Hein, parce que le « je », c'est le « nous » et c'est le « on ». D'ailleurs, c'est Claire et c'est Gilles, c'est pas « je », hein, bien sûr.
C'est la troisième personne du singulier
que vous
employez.
C'est la troisième personne. Ce que vient de dire Philippe Collin m'émeut tout particulièrement parce que ça me renvoie à ce que j'ai compris assez vite quand j'ai commencé à publier, à savoir que les histoires paysanne que je raconte, elle constitue une sorte de socle sociologique pour la population française. La couche, au sens géologique du terme, paysanne, dans les généalogies des familles françaises, elle est en général, désormais, hein, à la troisième ou quatrième génération, mais le plus souvent, elle n'est pas loin.
Vous avez conscience de ça, Philippe ?
Complètement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est aussi une histoire française, ce que raconte Marie-Hélène Lafond dans ce livre. C'est que nous avons tous, en tout cas à 80%, j'en sais rien, des racines de ce monde-là, évidemment.
Voilà. Voilà. Et ce monde, il a été quitté, il nous a quittés, parfois nous l'avons fui de toutes nos forces, pour sauver sa peau parfois,
bien entendu.
Bah,
c'est le cas de Philippe Collin.
Voilà, c'est ce que j'ai cru percevoir. Évidemment que toutes ces étapes-là, des vies, de nos vies, au sens des vies mêlées, traversent les livres que j'écris. Et c'est pour ça que les livres que j'écris peuvent faire peur. Je le conçois tout à fait, qu'on puisse ne pas avoir envie de se mettre en face de ça, et de la façon dont ça vibre encore en nous. Évidemment, parce que ça peut être douloureux. Il y a une âpreté là-dedans, il y a quelque chose de rude, et en même temps, il y a un appel et un élan vers l'invention de soi.
Je voudrais qu'on écoute un couple d'agriculteurs du Finistère. Philippe Collin, on vient.
Je suis du Finistère.
On est en 1972. Monsieur et Madame Lavenant viennent de prendre leur retraite.
Ah, mais j'ai été cultivateur de tout temps. Je n'avais pas 15 ans quand j'ai quitté l'école. Tout le travail se faisait avec les chevaux, puisqu'il n'y avait pas de moteur ni de tracteur de ce temps-là, bien sûr. La charrue agraire même. Les Brabants ont commencé dans ma jeunesse.
Et on faisait des journées de travail de combien d'heures à ce moment-là ?
Oh, ben, le plus long possible, vous savez. On n'avait pas l'électricité dans ce coin-ci non plus.
Qu'est-ce que vous faisiez, vous, comme travaux dans la ferme, en dehors ?
Il y avait les vaches à traire, il y avait les cochons à nourrir, parce que tout ça se faisait à la main.
Et vous avez été heureux pendant votre vie ?
Oh oui, oui. Je n'ai pas été malheureux, bien sûr.
Est-ce que vous reconnaissez vos parents, par exemple, Marie-Hélène Lafond ?
Vous vous rendez compte, on lui dit « Vous avez été heureux ?» Il répond « Je n'ai pas été malheureux. »
Oui,
ça, c'est formidable. C'est formidable.
Ça ferait le bonheur d'un psychanalyste ?
Je dirais « Nous les reconnaissons. » Les voilà, les strates. Hein, voilà. Et c'est très intéressant qu'on entende l'homme et la femme, avec cette répartition des tâches, qui se retrouve dans nombre de mes livres, et qui, au début d'ailleurs, a beaucoup interrogé, mes lecteurs se demandaient quel était mon rapport à cette question du masculin et du féminin. Il est là, le rapport. C'est-à-dire que les tâches, elles se répartissaient. Il y avait les tâches des hommes et les tâches des femmes.
C'était comme ça et pas autrement.
Alors, c'était comme ça et pas autrement. Il y a ce magnifique imparfait, évidemment. C'est l'imparfait flaubertien qu'on entend là.
Flaubert, votre référence.
Voilà. Et il y a aussi, ce qui est très important, avant la mécanisation et après. La mécanisation, c'est fondamental.
Ah oui, c'est ce qu'on comprenait là.
Tout à fait.
C'était un autre monde.
Complètement le rapport au geste, complètement le rapport au travail, complètement les rapports des paysans entre eux à l'intérieur des fermes et d'une ferme à l'autre. Ça accélère tout et en même temps, ça libère les filles. Si les filles comme moi, je suis bien placée pour le savoir, ont quitté le terrain paysan et le terrain agricole, c'est parce que la mécanisation massive a fait que, il n'y avait plus de place, tout simplement.
Mais dans Hors-Champ, ce pauvre Gilles, je dis ça sans déférence, est obligé de continuer la manière de travailler du père. Il n'a pas le droit de moderniser les tables et les vaches, et le travail avec les vaches, parce que le père ne veut pas prendre le train de la modernisation.
Alors, le père veut garder les rênes, surtout, vous voyez. Il vit à une époque où, de toute façon, il n'a pas le choix. Tracteur et botteleuse, etc. Bon, évidemment. Mais il veut garder le pouvoir. Voilà. Il ne veut pas le lâcher. Et laisser son fils prendre une initiative, ce serait lâcher. Et ça, c'est pas possible.
Marie-Hélène Lafond, dans votre nouveau roman, Hors-Champ, dans la ferme de Claire et Gilles, les enfants, en tout cas la ferme de leurs parents, et la leur aussi, il y a souvent la radio qui est allumée et qui diffuse des chansons populaires. Alors il y en a aussi dans les auto-tamponneuses au village, et Claire les aime, ces chansons. J'ai noté « J'ai encore rêvé d'elle » et des chansons de Dalida ou de Mike Brandt. Je crois que dans un autre roman, vous aviez évoqué Joe Dassin. Alors on a eu envie, avec Valentine chez Debois, d'écouter Joe Dassin. On vous propose « La Marie-Jeanne ».
C'était le 4 juin, le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-les-Essonnes. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la Garonne. Et mon père dit à ma mère en nous passant le plat de gratin: la Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne, passe-moi donc le pain. Y a bien encore 2 hectares à labourer dans le champ de la canne. Et maman dit, tu vois, quand j'y pense, c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-les-Essonnes. Et voilà que Marie-Jeanne Guillaume va se jeter du pont de la Garonne. Mon frère dit qu'il se souvenait quand lui et moi et le grand Nicolas, on avait mis une grenouille dans le dos de Marie-Jeanne un soir au cinéma. Et il me dit, tu te rappelles, tu lui parlais ce dimanche près de l'église. Donne-moi encore un peu de vin, c'est bien injuste la vie. Dire que je l'ai vu à la Syrie hier à Bourg-les-Essonnes, et qu'aujourd'hui Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la Garonne. Maman m'a dit, enfin mon grand, tu n'as pas beaucoup d'appétit. J'ai cuisiné tout ce matin et tu n'as rien touché, tu n'as rien pris. Dis-moi, la sœur de ce jeune curé est passée en auto. Elle a dit qu'elle viendrait dimanche à dîner, oh et à propos. Elle dit qu'elle a vu un garçon qui te ressemblait à Bourg-les-Essonnes. Marie-Jeanne jetait quelque chose du pont de la Garonne. Toute une année est passée, on ne parle plus du tout de Marie-Jeanne. Mon frère qui s'est marié a pris un magasin avec sa femme. La grippe est venue par chez nous et mon père en est mort en janvier. Depuis, maman n'a plus envie de faire grand-chose, elle est toujours fatiguée. Et moi, de temps en temps, je vais ramasser quelques fleurs du côté des Essonnes, et je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la Garonne.
Cette nouvelle série historique s'intitule Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie. Dans ce récit, nous allons à la fois vous raconter sa vie, mais aussi l'histoire de la bourgeoisie française au XXe siècle et celle du mouvement féministe.
Les femmes prennent la rue ! Les femmes prennent la rue !
En compagnie d'historiens et d'historiennes, nous allons explorer le destin de Simone de Beauvoir, sonder le passé pour éclairer le présent. Faisons de l'histoire.
J'ai jamais pensé que j'avais raté ma vie. Je suis extrêmement contente de ma vie puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie.
Il s'appelle Philippe Collin, il est dans le grand atelier voilà. De Marie-Hélène Lafon. C'est intéressant parce que j'ai toujours pensé que la radio, c'était une forme de pédagogie. Et vous êtes très pédagogue, Philippe Collin, quand vous faites vos podcasts.
Oui, j'y tiens beaucoup, peut-être de par mon chemin social. J'essaye de m'adresser au plus grand nombre et à ceux qui parfois n'ont pas tous les outils, tous les codes, toutes les éducations possibles. Donc je fais très attention à ça. Avec toute l'équipe qui m'entoure, on est toujours vigilant sur le fait qu'on s'adresse à des gens très différents. Au point qu'on a un petit code, par exemple, dans l'équipe, c'est que quand quelqu'un ne comprend pas un mot,
soit on l'escamote, soit on l'explique. On est toujours dans une forme de générosité dans le récit. Je me dis, ben, venez, et on vous raconte une histoire, mais comme si on était tous ensemble. Voilà, c'est très important pour moi.
Marie-Hélène Lafont, vous avez souhaité la présence de Philippe Collin. Il est à la fois historien, mais il est aussi conteur.
L'histoire, ça commence dans ma vie, à l'école, où le maître nous fait des leçons d'histoire, mais en fait, il nous raconte une histoire. Ensuite, j'ai, quand je suis dans les années collège, lycée, un professeur d'histoire qui s'appelait Monsieur Parmentier et qu'on appelait Patate, et qui racontait merveilleusement. Il nous racontait des histoires et il nous enseignait l'histoire. Les deux ont toujours été, pour moi, intriqués, emboîtés l'un dans l'autre. Je ne les ai jamais tellement séparés, en fait. La dimension du conte, par exemple, et du contage, à l'école, et enfant et un peu plus tard, j'ai la voix comme ça encore, la façon de circuler dans la salle de classe en comptant, qui fait que compter et raconter, vous voyez, avec toute la magie, toute la mythologie que ça comporte, ça m'est constitutif, ça m'est nécessaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand ça passe par la radio.
Eh oui, alors c'est votre nouveau Monsieur Parmentier, Philippe Collin.
Si vous voulez, voilà.
Monsieur
voilà.
Patate, donc.
Monsieur Patate.
Tu as trouvé ton surnom, Philippe.
Ah, Monsieur Parmentier n'avait pas le doux regard bleu de Philippe Collin.
Merci.
Il était redoutable. On le craignait beaucoup. Oui. Mais il nous emportait, vous voyez. Et ce que j'aime, donc, c'est qu'on a la voix. La radio, c'est d'abord la voix.
Bien
donc,
sûr.
On a la voix, on a un rythme narratif, on a en effet une attention extrême, avec cette belle expression que vous avez, et l'horizon du prochain épisode, j'adore ce mot horizon qui surgit comme ça.
Et oui.
Vous voyez, on cingle vers l'horizon d'un récit, donc c'est raconté, et en même temps, il y a une solidité scientifique.
On va prendre un exemple, parce que je sais que vous avez beaucoup aimé la série de Philippe sur Simone de Beauvoir, Philippe et son équipe. Donc je vous fais écouter un épisode de cette série, quand il est question de la Chine.
Archives soviétiques, 1949. Voici une allocution de Mao Zedong.
Je déclare la création officielle de la République populaire de Chine et de son gouvernement central.
Marie-Hélène Lafont m'avait dit, est-ce que vous pouvez retrouver les feulements rauques de Mao Zedong ?
Mais oui !
C'est dément.
C'est démentiel. C'est démentiel.
Complètement. Ouais. On se demande comment ça a pu emporter tant et tant.
Exactement.
Parce que, bon, il y a des millions de morts derrière ça.
Eh oui.
Voilà. En même temps, susciter l'adhésion éperdue de tant et tant d'intellectuels.
Et de Beauvoir et de Sartre.
Voilà, hein, notamment. C'est totalement terrifiant. En même temps, il y a une vibration là-dedans presque animale. Mm-hmm. Le voilà, le Brément de l'Anne Jacquot. Vous voyez ?
Vous voyez qu'il est dans l'émission.
Voilà, il y est. Ce que j'aime beaucoup dans les podcasts de Philippe Collin, c'est le tissage entre justement ces strates, voilà, hein, la parole de Philippe Collin et les différents historiens ou intervenants, souvent historiens donc, ou sociologues ou autres, que vous conviez et dont les paroles s'entrelacent.
C'est avec les archives.
Avec les archives.
Avec les archives. Voilà.
Vous avez un sacré matériau à votre disposition.
Énorme. Un matériau énorme, c'est un océan, les archives. Et vous savez, en plus, c'est intéressant parce que j'ai toujours pensé que faire de l'histoire, c'est prendre soin du lien entre le peuple des morts et le peuple des vivants. Vous voyez, par exemple, réécouter Mao, même découvrir la voix de Mao, c'est intriguant. Tout d'un coup, on prend conscience, on a une toute autre vision du personnage, soudain. Mais ça marche pour tout le monde. Tout d'un coup, vous réécoutez des voix et elles reviennent dans vos vies. Et donc, moi, je suis très attaché à ces archives parce que c'est comme si on reparle de strates et de sédimentation. Nous sommes, quelque part, la génération suivante ou la troisième génération après des archives qui sont parfois début du XXe siècle. Eh bien, remettre ça à l'ordre du jour en 2025, c'est comme faire un voyage avec des gens qui sont morts, mais qui, du coup, reviennent dans vos vies. Et je trouve ça assez passionnant.
Mais comment vous choisissez les archives ? Parce que c'est un océan.
Un océan. Alors j'ai des gens très doués. Équipe, j'ai des gens très doués pour ça, notamment Frédéric Martin, qui fait beaucoup de recherches documentaires, d'archives sonores, voilà, évidemment. Et après, nous, on a un plan qui est très détaillé. Donc on a des demandes, est-ce que ça c'est possible, pas possible. Parfois on a des trésors qui surgissent, des archives, des choses qu'on n'a pas réécoutées depuis 80 ans. Vous voyez, des choses qu'on restaure même, etc. Et en fait l'idée c'est de d'être au carrefour, finalement, d'un savoir savant, qui est celui des universitaires, les historiens, c'est la base du projet. Hein, chaque épisode, il y a plus de la moitié qui est consacrée à la parole historienne. Donc, c'est la base, c'est le cœur du projet. Mais nous, on a voulu agrémenter cette parole d'une dimension fictionnelle. Donc on est au carrefour de la fiction, des histoires et du savoir savant de l'histoire. Et tout mon rôle, et qui est très difficile, je le dis parce que j'ai peur parfois, c'est de mélanger les deux. Et donc je réfléchis toujours à comment est-ce que je mets en valeur une parole scientifique, qui est à mon avis le cœur du projet, encore une fois, mais comment je l'accompagne par un voyage immersif, sensoriel parfois, émotif. Mais je me dis peut-être que je peux me servir de l'émotion au service du savoir. Et donc j'essaie de créer ça. Et on parle de strates, parfois vous savez c'est un multipiste, donc ça veut dire qu'on a plusieurs pistes de son. Parfois il y a 14 pistes, voyez. Et l'idée c'est de vous perdre dans ces 14 pistes, que votre cerveau soit un peu perdu, pour qu'il soit concentré sur ce que raconte l'historien. Et mieux que ça, quand vous avez 14 pistes, votre cerveau il est perdu. Tout d'un coup il n'arrive pas à identifier les 14 sons. L'âne, on ne sait plus trop où il est quand on l'entend. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que votre cerveau projette des images. Il se fait un film. Et donc, quand vous mettez 14 pistes, vous proposez à l'auditeur et à l'auditrice de s'inventer un film. Vous savez, Orson Welles disait « La radio, c'est comme le cinéma, mais à la radio, l'écran est plus grand. » Et je trouve ça extraordinaire parce qu'on a, avec la radio, des outils qui permettent de projeter l'auditeur avec un savoir savant dans un monde imaginaire. Et mon rôle, c'est ça. C'est d'être au carrefour des historiens qui sont avec nous, 10, 12, 14, et une équipe artistique, Juliette, Violaine, qui s'occupe de la mise en onde, comme on dit à la radio, d'un récit un peu romanesque. Mais c'est dangereux. Donc, faire vraiment très attention d'être au bon dosage entre les deux. Voilà.
Oui, parce que l'émotion, pour le coup, j'entends bien ce que vous dites, elle peut tout submerger, on peut aller du côté du pathos.
Exactement.
Et ça, c'est absolument terrible.
Oui. Et ça dessert l'histoire avec un grand
bien H. Entendu, donc, bien entendu, ça brouille tout, ça fausse tout, et on baigne tout le temps dans ce jus-là. Mais aussi, j'ai le sentiment d'apprendre quelque chose. Moi, j'aime apprendre.
C'est le but.
Et j'aime aussi, ce que j'aime beaucoup dans vos podcasts, c'est qu'on a rendez-vous avec certaines voix. On sait qu'Annette Viviorca pourrait éventuellement être là.
Oui, oui, c'est des personnages, en fait. C'est des personnages.
Et Tal Brutman. Mm-hmm. Oh, Tal Brutman.
Ben oui.
Déjà, il a un nom qui est tout un programme.
Oui. Hein. Un nom de roman.
Totalement, ça ne s'invente pas, voilà. Un nom pareil. Pierre Assouline nous fait parfois aussi des merveilles.
Oui, oui. Enfin, bon, il y a Pascal Horry aussi qui
vient. Oui, absolument.
Henri Rousseau, par exemple.
Oui, oui, oui.
L'ultime conversation avec Henri Rousseau au retour de Sigmaringen.
Oui, extraordinaire. Voilà. Il m'a bouleversé. Voilà. C'est extraordinaire.
Et quand vous êtes tous partis, j'aime aussi quand vous partez tous par la gare de l'Est, 6h du matin.
Exactement.
Hein,
exactement.
Tout le monde est là.
Oui, il raconte.
On entend le froid et le silence de cette gare de l'Est à 6h du matin, vous voyez, hein, et on vous voit, on voit l'haleine qui monte. Et c'est vrai, cette histoire d'écran. Orson Welles a raison, sans doute, a-t-il souvent raison, Orson Welles. Et l'écran large, comme ça,
très large.
Pour moi, ça consonne avec le mot horizon.
Oui, oui, bien sûr, bien
sûr. L'horizon.
Bien sûr. C'est aussi un métier d'artisan. Et je le dis parce qu'en fait, c'est un métier, c'est un établi, presque comme un peu monde paysan, quelque part. C'est qu'en fait, on travaille avec des outils et on est à l'établi. Et j'adore ça parce qu'il y a une chose qui est de l'ordre des métiers de la radio. Et il y a des gens autour de moi qui savent créer ça. Et j'y tiens parce que c'est un savoir-faire qu'on nous a transmis. Mais de génération en génération.
Je peux certifier que Philippe est mon voisin de bureau.
Oui.
En soi, ça
oui.
n'a aucun intérêt ce que je raconte, oui. mais je le vois avec son équipe.
Oui.
Et ils sont extrêmement soudés. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir de chaque métier, parce qu'il y a plusieurs métiers à la radio, à construire, à concevoir ces podcasts.
Ensemble.
Et vous venez d'employer le mot « établi ». Je ne parle jamais de bureau. Je dis que j'ai un établi,
je
suis à l'établi.
Je comprends
voilà,
très bien.
Et que j'ouvre un chantier.
Oui, vous parlez de chantier.
Tout le temps.
Ah ouais.
On va écouter Benjamin Biolay. Je ne sais pas si vous l'écoutez quand vous êtes à Paris ou dans le Cantal.
Non, je dois le dire. Je vois tout à fait... On vit vraiment dans un monde d'images. Je vois exactement le visage de Benjamin Biolay. Je sais qu'il est... Il a une fille avec Chiara Mastroianni.
Absolument.
Je sais tout ça. C'est quand même incroyable. Je vois son visage. Et je n'ai aucune de ses chansons dans l'oreille. C'est quand même incroyable.
France Inter est là pour vous.
Heureusement.
Oui. Et pour les auditeurs aussi, quand même un peu. Et voilà Benjamin Biolay qui chante Le Penseur.
Il regarde le ciel immobile et se demande où sont les villes et les ténagères invincibles qui n'est pas revenu de loin.
ouest. Il regarde la mer impavide qui d'un coup d'un seul se débride, puis boit la gourde à moitié vide. Le ciel et l'eau se font détresse. Il s'empare d'une lame invisible, puis solennellement désigne le port où s'alignent les grues, là où jadis il a vécu une forme de bonheur indicible, avec sa femme, son chien, ses filles. Il se dit je suis encore chaud, j'aime bien mourir maintenant, mon troupeau. J'emmène mon bateau. Et puis au cas où, je dis bien au cas où, y'aurait rien là-haut, pourrais-je emmener les poteaux. Il regarde la route de l'exil et se demande où vont les îles et les grands oiseaux indociles en forme de signaux de détresse. Il rêve des berges du Tibre, du Nil, humant la fumée d'une de Nil. Il reste au loin quelques collines allongées dans la brume épaisse. Avant ici avait des chenilles, des grands bourgeois d'une grande ville, le confluent, le pauvre et nu, et le jardin montre son cul. Le déclin était prévisible, l'humanité si peu sensible. Mais tant qu'il y aura des bistrots, je veux bien mourir maintenant, trop bon. Et puis au cas où, je dis bien au cas où, il y aurait rien là-haut, pourrais-je emmener mon bateau. Et puis au cas où, je dis bien au cas où, il y aurait rien là-haut, pourrais-je emmener les poteaux.
Marie-Hélène Lafon, Philippe Collin, votre invité, quand j'étais jeune, voire petit, Alain Decaux, nous racontait l'histoire à la télévision.
Je n'ai jamais pratiquement lu pour mon plaisir. Je ne lisais que les livres qu'il fallait lire sur le sujet. C'est pourquoi j'ai compris Pivot par la suite. Pourquoi je suis obligé de lire sur Pierre le Grand. Il faut que je lise pendant un mois que sur Pierre le Grand.
C'est pas faux, on va pas le plaindre. Mais c'est vrai que nous sommes un peu, nous aussi, obsédés par nos sujets, Philippe.
Obsédés, et j'assume complètement le côté de Decaux. Quand on a commencé cette série documentaire, j'ai dit à l'équipe, on va tous regarder Decaux et on va s'inspirer de ce qu'il était. Parce que voilà un type qui a transmis un savoir historique, on va dire, mais de façon populaire. Et je trouvais ça assez génial. Quand j'étais gamin, moi aussi, j'ai croisé Decaux dans ma vie d'enfant à la télévision, et j'étais assez fasciné par ce type.
Vous n'êtes pas tenté de faire ce que vous faites à la télévision ?
Non. Non, parce que l'écran est trop petit.
Voilà, c'est plus difficile de repousser les limites jusqu'au-delà de l'horizon avec la télévision.
Voilà, donc on fait des documentaires adaptés de nos podcasts, oui. ça existe, mais vous voyez, oui. je ne veux pas incarner la chose parce que je trouve que ce serait un peu...
On vous l'a proposé ?
Plusieurs fois. Mais je ne veux pas le faire parce que je trouve qu'on gâcherait votre travail. Je trouve en tout cas, voilà.
Bien sûr. Marie-Hélène Lafon, c'est le moment des conseils dans le Grand Atelier. Vous êtes venue avec un livre d'un très grand romancier italien, une star là-bas d'ailleurs, Mario Rigoni-Stern. Qu'est-ce que c'est ce livre ?
Histoire de Tenley. L'histoire d'un homme broyé par la grande histoire. Justement, nous sommes à l'intersection de l'histoire d'une vie et de la grande histoire. En l'occurrence, la guerre de 14-18, que cet homme refuse de toutes ses forces et par laquelle il est empoigné, emporté. Et c'est comme tous les livres de Mario Rigoni-Stern, à la fois politique et poétique et puissant, nourri d'un rapport essentiel qui était celui de Mario Rigoni-Stern. Je dis volontiers de lui qu'il était comme un arbre. Donc c'est un rapport très essentiel à son lieu d'origine, hein, la région d'Asiago, où il a vécu toute sa vie, au nord de l'Italie, à la frontière de l'Autriche, à une enfance qui jamais ne finit en lui, et aussi aux nuits, aux saisons, aux abeilles, aux champs de pommes de terre, aux bois que l'on fend pour se chauffer pendant l'hiver. C'est l'écrivain de la neige. Personne comme lui n'écrit la neige. Et dans Histoire de Stanley, vous avez cette phrase quand même, dès la première page. Sa maison avait un arbre sur le toit, un cerisier sauvage. Un livre qui commence comme ça, ça emporte.
Surtout Marie-Hélène Lafont, je le comprends bien. Philippe Collin, vous vous servez beaucoup des romans pour travailler vos podcasts. Est-ce que la littérature fournit aussi une sorte d'archive ?
La littérature, c'est l'épaisseur, c'est la compréhension de l'autre, c'est la compréhension de l'expérience humaine. Donc si vous voulez faire de l'histoire en expliquant qui était Léon Blum, par exemple, vous avez besoin d'être nourri par la littérature. Lui-même étant très nourri par la littérature, c'est un homme politique qui a été très nourri par la littérature, Blum. Et donc, ça, c'est très utile pour nous. C'est-à-dire que même l'équipe, toute l'équipe, sont de grands lecteurs de littérature. Et ça participe beaucoup à ce que nous faisons.
Marie-Hélène Lafont.
La littérature, pour le coup, pointe donc son nez, dirais-je, hein, très souvent dans vos podcasts. Et on entend aussi les titres. Ils sont incroyables, les titres.
Oui, oui. Hein,
et les sous-titres. Oui, oui. Philippe Pétain, le fils de la veuve.
Oui, oui, exactement.
Voilà,
oui.
Tout s'ouvre,
oui,
évidemment.
Sûr.
Vous
oui,
voyez,
oui,
donc,
oui, c'est romanesque.
Infiniment. Mais le réel, et Dieu sait qu'une des dimensions du réel, l'histoire est enfoncée totalement dans le réel, il est inépuisable. Hein. Parfois, quand vous racontez certains épisodes, en même temps, on se pince, on se dit, mais comment est-ce possible que les choses aient été ainsi ? Eh bien oui, elles ont été ainsi.
Philippe, vous allez devenir historien ou vous allez devenir romancier ou vous allez rester à la radio ?
J'espère pouvoir être un peu tout. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'espère pouvoir maintenir ces différentes activités. J'adore la radio pour ce qu'elle m'offre. J'ai adoré écrire un premier roman, j'espère que j'en écrirai un second.
Le barman du Ritz.
Voilà, et en même temps, j'adore l'histoire depuis que je suis enfant, et donc j'espère que je pourrai continuer à tisser ces trois pôles ensemble.
C'est voilà. Ce que vous avez demandé au Père pour Noël, votre dernier
c'est
Noël.
C'est ça, exactement.
Mais pensez-vous un jour écrire un roman qui soit moins que le barman du Ritz, enfoncé dans le matériau historique?
Peut-être que oui. C'est peut-être un objectif que je me suis, un horizon que je me pourrais me fixer. Vous voyez, j'ai même peut-être une matière qui me travaille la tête, qui pourrait être liée aussi à votre hors-champ, peut-être, Marie-Hélène.
Alors, Philippe Collin fait des podcasts. Il se lève très tôt, Philippe. Il se lève à 5h du matin. Hein,
très tôt, oui, oui.
Il travaille beaucoup. Et vous allez être augmenté. Et vous allez le soir au théâtre, alors?
Oui, absolument.
Et qu'est-ce qu'il faut voir au théâtre?
Alors là, j'ai vu au mois de décembre à Paris, mais ça va tourner partout en France, un Pétrole de Sylvain Creusevaux. Pétrole étant le titre d'un roman inachevé de Pasolini, à la fois l'Italie, encore l'Italie. C'est un spectacle virtuose. Et tout de suite, je vais commencer par dire une chose. Je n'ai pas tout compris au texte, et je m'en fiche. Et ce n'est pas très grave.
On a le droit de ne pas tout comprendre.
Exactement. Donc, tout le monde se détend. C'est un texte qui est parfois compliqué et âpre, mais ce n'est pas grave. Creusevaux, il propose une expérience théâtrale inouïe. Vous vivez une chose. Vous savez, on voit beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, on va beaucoup au théâtre. Et il y a des choses qui vous frappent l'esprit. Vous voyez, eh bien, Creusevaux, il vous frappe l'esprit. Creusevaux, c'est le fils, il a 40 ans à peu près, Creusevaux. C'est le fils de Scorsese, c'est le fils de Franck Castorf, qui est un grand metteur en scène allemand, c'est le fils de Patrice Chéreau. Tout d'un coup, il vous offre quelque chose, une impression sensorielle, émotionnelle, extrêmement forte, qui vous emporte. Vous êtes happé par la mise en scène de Creusevaux. Et c'est vraiment un moment, ça dure 3h30, je vous jure que ça passe. Comme ça. Il y a un entracte d'un quart d'heure, mais c'est extraordinaire. Il va tourner un peu partout en France,
j'ai les dates,
repérer où ça sort, et aller voir ce spectacle parce que c'est inouï, c'est hors norme. Voilà, c'est virtuose.
Il a été créé à l'Odéon en décembre.
Absolument.
Il sera en février à Saint-Étienne, en mai à Rennes, et en tournée à partir de novembre de l'année prochaine à Chambéry, Brive et Lyon. Pétrole d'après Pasolini, par le grand Sylvain Creusevaux. Je sais que vous êtes devenu addict à ces spectacles.
Complètement, complètement.
On va se quitter en écoutant Pierre Michon, l'écrivain que vous aimez beaucoup, Marie-Hélène Lafont, et vous n'êtes pas la seule. Il a écrit Vie minuscule, il a écrit La Grande Beune. Et la question qui lui est posée là par Augustin Trapenard, c'est: que referiez-vous de votre vie et que ne referiez-vous pas?
Je serais riche. Je referais de la littérature, certainement, puisque je suis incapable de faire autre chose. Mais beaucoup moins prise de tête et beaucoup moins littéraire. Je vois les articles de journaux, ils parlent de grands styles, de métaphores, etc. Oui, c'est ainsi que j'écris.
Justement, qu'est-ce que ça vous a apporté l'écriture dans la vie, Pierre ?
D'avoir une vie, ça m'a apporté un petit peu de bonheur, ça m'a évité de vieillir, certainement.
Ça vous touche comme ça nous touche, Marie-Hélène Lafont, les paroles, le discours de Pierre Michon ?
J'aime comme le mot « bonheur » est scandé par lui. La grande beune, vie minuscule, Rimbaud le fils, sont des sommets, enfin, des moments cruciaux et essentiels de l'histoire de la littérature. Je ne crois pas du tout que ce soit difficile. Voilà, il faut éventuellement accepter, comme vous venez de le dire, ça c'est très important, de ne pas tout comprendre. Accepter d'être traversé, accepter d'être bercé. Et ça berce, et ça traverse la langue qu'écrit Pierre Michon.
Et c'est ce que vous cherchez à faire aussi, vous, Marie-Hélène ?
Je m'applique vers cet horizon.
On va vous écouter, vous appliquer. Non, on va vous écouter lire un extrait de Hors-champ. Je rappelle que c'est la vie de deux enfants qui vont devenir adultes et une vie où le bonheur n'est pas présent, malheureusement, dans la vie du fils Gilles. Je vous ai proposé cet extrait-là.
Il neige encore. La veille, à plus de minuit, quand il est monté se coucher, il neigeait déjà. Et le vent s'est levé en fin de matinée, un vent mauvais, les cires, qui vous siffle aux oreilles, déplace les congères et les entasse là où elles gêneront le plus. Il connaît les hivers et les craint chaque année davantage, même s'il neige beaucoup moins que dans leur enfance ou dans sa jeunesse. Gilles pense dans leur enfance parce que sa sœur était là, et dans sa jeunesse parce qu'elle n'y était plus. Il ne cherche pas à se souvenir, ça remonte tout seul quand il est au lit, dans le désordre. Des moments avec sa sœur et d'autres, beaucoup d'autres. Lui qui a toujours eu tant de mal à retenir la moindre leçon à l'école, jamais il n'aurait cru avoir une mémoire si précise, jusque dans des détails sortis de nulle part. Il se passerait bien de certains et d'autres lui font presque plaisir. Il ne choisit pas.
La vie de Gilles et de Claire. Philippe Collin, je vous sentais très attentif à cette lecture.
Oui, oui, parce qu'encore une fois, ça me touche et leur jeunesse, enfin leur enfance, sa jeunesse, ça me parle beaucoup.
Ah voilà. Oui. Et je me suis dit que Claire, qui était devenue prof et écrivaine, était très liée à sa famille, très liée à sa terre et qu'elle écrivait un peu parce qu'elle se sent redevable. Elle doit rendre compte de cette vie-là. Elle doit rendre compte avec ses mots des traces familiales.
Oui, il y a un devoir, il y a une volonté d'inscrire et d'écrire une trace, comme une trace parfaite qui s'inscrirait et s'écrirait dans la neige. Et c'est vraiment la matière de ce livre, la matière intime de ce livre. Il y a une nécessité d'écrire le lien qui demeure dans les fratries, quand les vies passent, quand les vies nous traversent et nous passent dessus. Quelque chose demeure, qui parfois est assez indéchiffrable, tenace. Et dans tenace, il y a tenir. Voilà. Ce lien tient, nous retient ensemble.
C'est tellement vrai ce que vous venez de dire, c'est très beau. Tellement vrai.
Hors champ, c'est le nouveau roman de Marie-Hélène Lafont qu'on vous conseille avec Philippe Collin.
Ah oui, vraiment, lisez Hors champ parce que c'est bouleversant. Vraiment
Bûcher,
bouleversant.
Chastel, c'est l'éditeur et Philippe continue sa vie avec ses podcasts
voilà.
et certainement des romans un jour ou l'autre.
Voilà.
Bonne route,
merci,
Monsieur Collin.
Merci pour l'invitation, merci à tous les deux, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup Marie-Hélène.
Merci à vous deux.
Amélie Mico a réalisé cette émission avec Stéphane Koum, Marion Guilbeault m'a aidé à la préparer, Valentine Chedebois a programmé la musique et Sybille Clamins était à la technique. Samedi prochain, la balade de Laurent Voulzy à 17h et le lendemain, même heure s'il vous plaît, le comédien Pierre Lottin dans le Grand Atelier sur France Inter.